wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Sophie-Catherine Gallet, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Lise Combe. Autour de moi ce soir, Raphaël Léris, Elisabeth Philippe et Philippe Chevillé pour parler ensemble du chant des revenants de Jasmine Ward chez Belfond, dans le faisceau des vivants de Valérie Zenati aux éditions de l'Olivier, Carnet de Goliarda Sapienza au tripode et puis un coup de cœur de Raphaël Léris pour Hors de soi de Sacha Mariana Salzman chez Grasset. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des exemplaires de l'anthologie La beauté, établie par Bruno Doucet et Thierry Renard. C'est à l'occasion du Printemps des poètes qui se déroule, vous le savez, du 9 au 25 mars. Nous débutons cette dispute avec le chant des revenants de Jasmine Ward, publié chez Belfond dans une traduction de Charles Recourcé. Elle est née en 1977 dans le Mississippi, Jasmine Ward, elle est devenue la première femme à remporter deux fois le National Book Award. En 2011, c'était pour son second roman, Bois Sauvage, et en 2017 pour son sixième roman, Le Chant des Revenants, qui nous arrive donc aujourd'hui. On va y entendre trois voix, celle de Jojo, qui vit avec sa petite sœur dans la ferme de leurs grands-parents. Celle de Léonie, leur mère, toxicomane, pas très souvent là, mais qui va embarquer les enfants pour un périple qui doit les mener au pénitencier d'où leur père va être libéré. Puis la troisième voix, c'est celle d'un mort, Charlie. Le mort, c'est pas Charlie, c'est Richie, et c'est lui qui parle dans cet extrait que je vais lire. Je sais que Jojo est innocent parce que je le lis dans la houle secrète de son corps, son visage lisse, rembourré de graisse d'enfant, son ventre rond et plein, ses mains et ses pieds aussi doux que ceux de sa petite sœur. Et quand il dort, il a l'air encore plus jeune. Sa sœur s'est jetée en travers et ils se sont écroulés tous les deux comme deux chatons sauvages. Bouche ouverte, bras et jambes écartés, gorge exposée. Quand j'avais 13 ans, je savais beaucoup plus de trucs que lui. Je savais que les fers peuvent s'incruster dans la peau. Je savais que le cuir peut trancher dans la chair comme dans du beurre. Je savais que la faim peut faire mal, peut creuser le corps aussi facilement qu'une courge, et que voir ma famille mourir de faim creusait une autre partie de moi. Faisait rebondir mon cœur désespérément dans ma poitrine. Je regarde Jojo et Kayla vautrer dans le sommeil et je me demande si je dormais comme ça quand j'étais petit. Quand Rive me regardait sur le lit d'à côté, je me demande s'il avait déjà vu une chose aussi naïve et sauvage. Je me demande s'il a eu pitié ou si c'était de l'amour. Jojo ronfle et grogne, puis il s'arrête et je sens dans ma poitrine, là où il y aurait mon cœur si j'étais encore vivant, que quelque chose s'adoucit. Philippe Chevillé nous emmène dans le Deep South.
Oui, dans le Deep South. C'est une vision, je trouve, assez saisissante du Deep South qui nous est offerte par Jasmine Ward. Un roman qui brasse à la fois donc les problèmes sociaux d'aujourd'hui, le racisme qui est toujours aussi prégnant.
Parce que Jojo est métisse, hein, maman est noire, papa est blanc.
Voilà. Alors donc c'est et qui brasse en fait justement la façon dont il brasse les problèmes, le racisme, c'est qu'on retrouve cet enfant Jojo avec deux parents, deux familles aussi, et donc il vit dans sa famille noire et la famille blanche est assez épouvantable. On va la voir assez tardivement. Ouais. Et puis il brasse surtout aussi et vous avez cité ce joli passage du fantôme, mais il brasse aussi le passé et la façon, je trouve, trouve dont ce passé et ce présent sont entremêlés, c'est quand même assez assez remarquable. Alors c'est un roman choral à trois voix. Évidemment, on voit beaucoup de romans américains en ce moment avec des en général beaucoup de romans choraux. Pour le coup, je trouve que justement ces trois voix. Alors je parle même pas de celle du fantôme, mais déjà Jojo et cette mère qui est une mère pas vraiment présente, comme vous disiez, qui est pas forcément très sympathique d'ailleurs sous certains aspects. Mmh. Ça crée des étincelles et ça crée en fait une montée justement dramatique, hein, puisqu'il y a un côté un peu tragique dans le roman. Et ça fait que l'usage assez classique du choral est, à mon avis, extrêmement réussi dans ce roman. Alors c'est un récit très riche, hein, très narratif, très romanesque, mais pas à l'eau de rose. C'est-à-dire qu'on est vraiment, dès le départ, on sent l'âpreté de la situation de tous les personnages. Il y a des morts, il y a des personnages assassinés. Quand ça commence un peu à devenir un roadbook où on voit partir les personnages en voiture, c'est franchement pas une promenade de santé. Mmh. Et du coup, elle tient bien justement ce fil. Et on en arrive presque d'ailleurs à un roman noir aussi à un moment donné, puisqu'on va avoir les révélations finales. Donc on a tout d'un roman très du best-seller américain, mais avec cette dimension d'écriture et de force du propos qui fait que pour moi, c'est vraiment un roman qui sort du lot.
Je reviendrai vers vous, bien sûr, Philippe. Raphaël Léris, premier regard sur ce livre de Jasmine Ward.
Alors, c'est un roman que j'ai trouvé impressionnant parce qu'il mélange la force et la grâce dans des proportions que je trouve très réussies. De la même manière qu'il fait avancer la poésie et le sordide, la magie et le réalisme social, que tout ça cohabite très très bien dans ce texte, où l'histoire pèse des tonnes sans qu'il soit besoin d'en faire soi-même trop, ou alors pas tant que ça, parce que j'ai des petites réserves par ailleurs sur un petit côté, pas tant que ça. C'est un roman d'une noirceur terrible, Philippe l'a dit, mais qui ménage des interstices à la lumière. Moi, peut-être ce à quoi j'ai été le plus sensible, c'est à la douceur qui émane du personnage de Jojo et de son grand-père River. Ils ont une dignité, une force et un amour de leur prochain, alors dans un cadre très familial, mais enfin d'ailleurs non, parce que River, le grand-père, étant cela au-delà, mais donc ces interstices de lumière qui passent par ce rapport de ces deux personnages aux autres, je trouve atténue la noirceur et le caractère peut-être un peu too much du texte dans cette noirceur-là, cette âpreté dont parlait Philippe.
Premier regard d'Elisabeth Philippe à présent sur le chant des revenants.
Alors je rejoindrai un peu chacun de mes camarades, c'est-à-dire je trouve comme Philippe que l'entrelacement des voix trouve tout à fait son sens ici, notamment pour ce qui est de superposer le passé et le présent et montrer à quel point l'héritage de la ségrégation, des lynchages, de l'esclavage est encore présent. Mmh. Aussi bien dans les mémoires que dans les corps. Il y a vraiment une superposition entre ce qui est arrivé au jeune Richie dans ce pénitencier, qui était fouetté, qui a vécu les pires sévices, et puis Jojo, qui est un jeune adolescent et qui va subir lui aussi une arrestation simplement parce qu'il est noir. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est très réussi, et ça m'a rappelé cette façon de superposer les temporalités, le film Get Out de Jordan Peele, où un jeune noir se retrouvait dans une famille blanche avec des domestiques noirs un peu zombifiés et le passé ressurgissait de la même manière, enfin d'une manière assez horrifique et surnaturelle, mais Jasmine Ward elle aussi joue avec une part de surnaturel et de magie, notamment à travers le personnage de la grand-mère qui a énormément de remèdes, qui pratique une forme de magie aussi à sa façon. Ensuite, donc ça c'est pour la partie où je rejoins Philippe, et je rejoindrai Raphaël sur le côté un peu too much, comme elle l'a dit, c'est-à-dire que certes, il y a une efficacité narrative indéniable dans ce texte, mais je trouve parfois trop, on sent trop le travail, on sent trop les effets que veut produire Jasmine Ward. La symbolique est souvent un peu surlignée aussi, notamment la scène d'ouverture. Le grand-père tue un mouton, tue un bouc, je crois. Donc on est vraiment dans le sacrifice et je trouve que voilà, tout ça est un peu appuyé, mais ça n'enlève rien à la beauté du texte, cette efficacité capacité narrative qui nous prend, nous happe, et puis c'est une façon de encore une fois d'insister sur cet aspect de l'Amérique, et quand même c'est une forme de souillure presque originelle pour l'Amérique, ce que raconte aussi Ta-Nehisi Coates, c'est-à-dire le corps noir qui est constamment exposé à la violence. Jasmine Ward le raconte sous forme romanesque.
Oui, alors le fond, je vous rejoins tout à fait, mais c'est vrai que j'ai un peu triché, si je puis dire, avec l'extrait que j'ai lu, parce que c'est vraiment, ça fait partie des rares pages que j'aime, ou en tout cas celles que je préfère dans ce livre, parce que alors moi je suis resté complètement à l'extérieur, et c'est vraiment un problème de voix, parce que ces voix-là ne m'ont pas du tout parlé. Enfin, il y a un parler, alors faussement enfantin, enfin pour moi, hein, comme je l'ai ressenti, ou faussement gouailleur pour ce qui est de Léonie, qui vraiment, alors je ne sais pas, c'est pas du tout Charles Recourcet, le traducteur, qui est en cause, hein, parce qu'il a signé d'excellentes traductions, mais est-ce que la transposition en français de la langue de Jasmine Ward, et est-ce que cette langue se prête à la traduction, je ne sais pas, c'est peut-être ce problème-là, mais quand j'entends, j'ai lu ça et là qu'on tenait Jasmine Ward déjà pour l'héritière de Toni Morrison, là, les bras m'en tombent, parce qu'on n'est quand même pas du tout dans un niveau de littérature semblable. Il y a certes une efficacité, il y a une sorte d'entraînement permanent, mais après il y a quand même, par exemple, beaucoup trop d'italique. Pourquoi autant de segments de phrases, de mots en italique? Je parle pas seulement des dialogues au sein d'autre chose, mais enfin, l'obsession pour le vomi qui est quand même, entre autres symboles sur le fait qu'on ne peut pas avaler les choses, et que, il y a beaucoup de choses qui m'ont arrêté, en tout cas qui m'ont empêché vraiment d'entrer dans la vie, dans les pensées de ces personnages. Philippe Chevillier, ça n'a rien contre vous qui nous avez proposé ce livre. Non, évidemment.
Je propose des romans américains, j'ai toujours un peu le même.
Non, parce que moi, je suis souvent très client des propositions que vous faites, Philippe.
Toni Morrison, moi, je ne ferais pas forcément le lien, même si je pense que, parce que c'est pas vraiment.
C'est parce qu'elle est noire et qu'elle a gagné des prix, donc c'est.
Mais je pense que ça peut devenir quelqu'un d'aussi important dans un autre style. Soit dit en passant, moi, je trouve que parfois, justement, pour des Français, de lire du Toni Morrison dans une traduction, c'est pas facile, parce que les traductions, elles sont assez assez difficiles, mais ça c'est un
c'est vrai que c'est compliqué,
et là je trouve qu'il y a un joli travail. Moi, j'aime bien ce style qui est un peu, il y a une forme d'emphase par moment. Il faut voir aussi que Jasmine Ward, c'est aussi le passé, elle a connu d'abord dans son enfance, ça a été assez dur quand elle était à l'école, ça s'est pas très bien passé. Ensuite il y a eu son frère qui est mort, qui a été tué par un chauffard blanc, et c'est ce qui a déclenché d'ailleurs son mécanisme d'écriture. Elle a fait un roman avec la mort de jeunes noirs et tout ça. Donc, et là, il y a le personnage du frère de la mère de Léonie qui est assassinée. Elle a cette colère en elle qu'elle contient, et je trouve que c'est bien que ça s'exprime par moments, même de façon un peu emphatique. Et surtout, ce que je trouve quand même, c'est que les personnages, si on les prend un par un, ils sont quand même très bien dessinés, parce que la petite sœur, par exemple, c'est aussi un personnage qui, c'est pas très facile de faire exister un quasi-bébé. Je trouve que la mère, avec ses relations avec sa copine Misty, il y a des moments qui sont quand même d'une grande force. Finalement, justement, cette mère que je disais au départ qu'elle est pas sympathique, mais on arrive quand même à en faire le tour et à comprendre d'où ça vient. Cette relation qu'elle a quand même avec le personnage de son compagnon, là, qui est aussi assez étrange, assez énigmatique et en même temps pas très sympathique. On a vraiment une description, on va au fond des personnages, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman qui peut être un peu chargé, mais il y a un souffle, quoi. Il y a un souffle et surtout un propos sur le racisme que je trouve magnifique.
Enfin, encore magnifique. Une fois, sur le fond, là, il n'y a pas de question possible, mais c'est vrai que tous ces éléments dont vous parlez, ça passe quand même beaucoup, beaucoup par des dialogues, énormément. C'est quand même, moi, c'est quand même ça qui m'a tenu à l'écart, peut-être. C'est un roman américain contemporain qui sont forcément. Vous vérifiez en même temps que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait beaucoup de dialogues dans ce livre, Elisabeth Philippe, il y en a pas beaucoup.
Ça m'a pas forcément plus choqué que pour d'autres livres, mais en revanche. On sent le livre de quelqu'un qui est passé par des cours de creative writing.
Elle a même eu un prix.
Oui, mais ça se sent. Ça se sent vraiment sur. Là, c'est les descriptions, donc effectivement les dialogues, et tout est efficace, quoi, tout est signifiant, mais ça donne aussi des pages très belles. C'est vrai que toute cette atmosphère très moite, cet orage qui menace toujours d'éclater, cette chaleur, tout ça est très très bien rendu, mais encore une fois, il y a quelque chose, on sent peut-être un peu trop, on voit un peu trop les coutures.
Raphaël Léris.
Alors, vous parliez du trop-plein d'images liées au vomi. Alors, moi, je trouve qu'il y a un effet physique de ce texte qui pour moi, est vraiment une de ses réussites. Il y a le caractère, l'espèce d'empoisonnement, en fait, de cette atmosphère qui passe par le fait que la petite fille Kayla soit malade. Alors, moi, ça m'a assez... La répétition, en tout cas, a produit sur moi un effet de véritable, oui, de contagion. Vraiment, j'ai senti un effet physique. Et il y a une scène donc d'arrestation de la voiture de retour du pénitencier où la mère avale des. Je pense que c'est de la meth pour ne pas se faire attraper par les policiers.
Voilà, ah oui, j'aurais pas dû. Méthamphétamine.
Celle-là.
Je suis arrivée.
Et alors moi, pour moi, cette scène où par ailleurs elle part, où elle est en train de faire une overdose parce qu'on n'arrive pas à lui faire expurger ça. Enfin, pour moi, c'est très réussi parce que ça produit un effet physique sur moi. Après, alors bon, chacun ses obsessions. Ouais. Mais je trouve qu'il y a trop de les métaphores sur les serpents. Alors c'est sans doute parce que je suis herpétophobe de confession. D'accord. Mais je trouve qu'il y en a trop. Enfin, d'ailleurs, c'est quand il y en a, généralement, il y en a trop. Bah, typiquement chez Joyce Carol Oates, que je ne compare pas à Jasmine Ward, mais que j'aime de ton âme, mais il y en a toujours des tonnes. À partir du moment où il y en a une, d'un seul coup, ça foisonne. Bon, bref, donc, fin de la parenthèse. Mais pour moi, voilà, cette dimension physique du texte et qui fait cohabiter la poésie et le sordide, justement, ça a un effet, en tout cas, sur moi.
Bon, bah, jugez par vous-même, c'est toujours ce qu'il faut faire. Hein. Lisez Le Chant des Revenants de Jasmine Ward, publié chez Belfond. C'est donc dans une traduction de Charles Recourcé. À suivre dans la dispute, Valérie Zenati, Goliarda Sapienza et Sacha Mariana Salzman.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la littérature avec « Dans le faisceau des vivants » de Valérie Zenati, publiée aux éditions de l'Olivier. L'écrivaine Valérie Zenati a aussi été la traductrice en français de la plupart, enfin de très nombreux livres d'Aaron Appelfeld, parce qu'il en reste encore beaucoup, à traduire. Un travail qui avait scellé une très riche amitié entre la jeune femme et l'un des plus grands écrivains des 50 dernières années. À la mort de celui-ci, en janvier 2018, Valérie Zenati a été, on pourrait dire, hantée par les souvenirs partagés, par les moments vécus ensemble, par les très nombreux échanges. Il en résulte aujourd'hui ce livre. Navette roulant sur le tarmac d'Orly Sud, j'ai eu une sensation de mouvement syncopé. J'allais m'envoler vers Tel Aviv malgré l'annonce de la mort. Je me dirigeais vers quelqu'un que je ne verrais pas. L'intention de ce voyage était déjà caduque. J'arriverais trop tard et je partais pourtant. Titubante et nauséeuse par manque de sommeil et l'odeur du kérosène qui s'engouffrait en moi en imprégnant ma gorge d'une traînée acide amplifiait mon écœurement. J'ai fermé les yeux, cherché sous le noir de mes paupières un repos qui se dérobait, et lorsque je les ai rouvertes, j'ai senti un regard posé sur moi. Une jeune femme me dévisageait si intensément que j'ai cru qu'elle me reprochait de rester affalée sur un siège alors qu'elle était debout, portant contre elle une petite fille endormie dans un kangourou. Je lui ai demandé en français si elle voulait ma place, mais elle continuait à me fixer. Croyant qu'elle n'avait pas compris ma proposition, je lui ai posé la même question, en hébreu, mais c'est en français qu'elle m'a demandé si j'étais bien Valérie Zenati. Et j'ai dit oui. Son sourire s'est élargi, elle m'a parlé de mes romans d'une voix très douce. Puis elle a ajouté « J'aime tant vos traductions d'Aaron Appelfeld ». Je ne pouvais la laisser prononcer ce nom sans rien dire, ni me contenter de hocher la tête en la remerciant d'un sourire flatté et modeste. Alors j'ai énoncé quelques mots que je ne m'attendais pas à devoir rassembler si vite. « Justement, je pars en Israël ». Je ne le réalise pas encore très bien, mais Aaron nous a quittés il y a quelques heures à peine. Elle a murmuré « Je suis désolé pour vous ». Puis elle m'a dit avec une conviction et une gentillesse infinie, un savoir qu'elle semblait détenir spécialement pour me l'offrir ce matin-là, Il faut que vous alliez à Tchernovitch. Je suis sûr que ça vous fera du bien, ça vous ouvrira à quelque chose d'important. Vous verrez, c'est une ville très inspirante. Raphaël Léris commence à nous parler de ce livre de Valérie Zenati dans Le faisceau des vivants.
J'imagine qu'on pourra en dire que c'est un récit de deuil, et bien sûr que c'en est un de récit de deuil, mais il me semblerait très dommage de le restreindre à cette définition. Ce texte que j'ai trouvé pour ma part bouleversant et tonique, incroyablement vivifiant, et qui me semble d'abord être un récit de gratitude. Alors d'abord, gratitude à l'égard d'Aaron Appelfeld pour tout ce qu'il lui a apporté comme écrivaine et comme femme, et comme être au monde. De gratitude, et ça c'est quelque chose de récurrent chez Valérie Zenati, de gratitude à l'égard de l'existence, dans ce qu'elle peut avoir de plus sacré et de plus terrestre. D'ailleurs, elle parle de ça chez Appelfeld, de la manière dont il lui a appris que ces deux domaines-là étaient infiniment intriqués. Donc cette gratitude-là, elle en fait un récit d'apprentissage, puisqu'il va s'agir d'apprendre à vivre sans lui. Elle raconte au début, je ne sais plus si c'est avant ou après le passage que vous avez lu, qu'elle ne sait plus comment elle doit s'adresser aux gens, et qu'elle se dit « Ah bon, alors est-ce que la vie, ça sera ça? Je serai un espèce d'enfant et je serai perdue. » Et donc là, il va s'agir d'apprendre à vivre sans lui. Et donc entre le 4 janvier, qui est la date de la mort d'Appelfeld, et le 16 février, qui est la date de sa mort, et qu'elle passe à Tchernovitz.
D'anniversaire, de naissance.
De naissance, j'ai dit.
De mort, pardon, excusez-moi, non.
Voilà, donc, le temps de sa vie. De sa date de naissance, ça serait qu'elle passe là-bas. Donc, dans ce temps-là, elle va réapprendre une forme de vie, elle, comme personnage, comme écrivaine, comme traductrice, comme femme. Alors, c'est un livre très riche, à mes yeux, parce qu'il est tissé dans la mort autant que dans la vie, dans les mots de Zenati comme dans ceux d'Appelfeld, dans le langage, dans plusieurs langues, puisqu'il y a le français, l'hébreu, mais aussi des mots d'ukrainien. Il est tissé dans la musique et dans le silence qu'il habite profondément.
Elisabeth Philippe, premier regard sur ce livre de Valérie Zenati.
Oui, c'est un livre que j'ai trouvé très beau. C'est effectivement d'abord un très bel hommage à Aaron Appelfeld. Il y a cet entrelacement, là on est encore dans un entrelacement de voix, hein, celle de Valérie Zenati et celle d'Aaron Appelfeld, puisque à ses mots, elle mêle les siens à lui. Donc il y a toujours ce travail d'échange, de dialogue, de celui qui est entre la traductrice et l'écrivain. Et là, c'est plus que de la traduction, c'est presque de la transsubstantiation. Il y a vraiment un travail d'incorporation. On voit comme Aaron Appelfeld fait partie d'elle, et c'est pour ça qu'on comprend qu'elle est amenée à se poser cette question, mais comment je vais pouvoir vivre sans lui, puisqu'il faisait vraiment partie d'elle, et c'est encore dans les livres et dans les mots d'Aaron Appelfeld qu'elle va trouver la réponse, entre guillemets, puisque cette question, comment vivre après, c'était celle qui était au cœur de l'œuvre d'Aaron Appelfeld, lui-même rescapé de la Shoah. Et ça, ce travail de, enfin, cette relation en fait qu'elle décrit entre elle et Appelfeld, je la trouve absolument magnifique. Et on pourrait presque parler même d'incorporation, parce que j'étais très très sensible à la deuxième partie où elle part à Tchernovitz sur les traces d'Appelfeld, puisque c'est l'endroit où il est né. Et elle déguste à un moment, le jour de l'anniversaire d'Appelfeld, un banouche. Donc c'est un plat c'est une bouillie de maïs,
ouais,
je crois,
une
sorte de polenta. Et là, on a vraiment l'impression de ce travail d'incorporation. Et on voit à quel point il y a quelque chose de physique. Cette traduction, elle est bien au-delà des mots. C'est vraiment le verbe fait chair. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est que pour le retrouver, pour revenir à lui, à ses mots, elle se replonge dans les notes qu'elle a pu prendre au moment des traductions qu'elle faisait lors des visites d'Appelfeld en France. Et toutes ces notes, ces traductions de notes ou de vidéos aussi qu'elle va regarder sur Internet, ça m'a fait penser aux pierres qu'on pose sur les stèles dans les cimetières juif pour montrer que au défunt, lui signifier qu'on ne l'a pas oublié, et j'ai trouvé que c'était ça en faisait vraiment un texte très très beau, et comme le disait Raphaël, très très vivant.
Philippe Chevillier, à présent.
Ben moi aussi, j'étais très impressionné par ce livre, parce que je trouve que tout ce qui a été dit, j'y adhère totalement. Et puis je me dis, la première action, c'est à la fin du livre, c'est de dire que c'est une magnifique postface à l'œuvre d'Appelfeld, et en même temps une préface, c'est-à-dire une postface pour ceux qui l'ont lu, et une préface pour ceux qui l'auraient peu lu ou pas lu du tout. Et que du coup, c'est, on peut le prendre par les deux bouts, et c'est un livre qui transcende donc la mort et la vie. Ça, je trouve ça formidable. C'est une bio. D'une certaine façon, mais une bio idéale, parce que justement ça n'a pas la forme d'une bio. On s'est vu par le prisme de l'intime, de l'amour, de l'amitié, de cette osmose entre Valérie Zenati et cet écrivain. On parlait du mix d'extraits d'entretien, de réflexions personnelles. Ça permet de redécouvrir l'auteur, alors à la fois sa littérature, puisque finalement dans les interviews on voit bien il recadre un petit peu tout ce qu'il a pu écrire, justement aux lisières de la Shoah et son rapport avec Israël. Tout ça est très bien expliqué et très bien raconté à travers lui, à travers elle. Et puis l'homme aussi, amoureux de la vie, de l'humanité, social sans être social, enfin sociable sans être sociable malgré tout. Ça, c'est absolument, je trouve, remarquable. Et en fait, ce qui est aussi sidérant, c'est que je l'ai lu comme un roman, c'est-à-dire que c'est une œuvre littéraire autonome, parce que ça démarre avec ce forme de suspense, d'une certaine façon, comment vivre ce deuil, ce départ où elle, au départ, elle pensait qu'il était encore en vie, elle apprend qu'il vient de mourir. On a une forme de récit assez haletant. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce moment dans l'avion, justement, cette phrase qui va lui revenir ensuite, qui va lui permettre, et on est de partir à Tchernovitz. Et là, on va avoir la description d'une ville et le retour aux sources d'Appenfeld et la façon dont elle raconte cette ville, dont elle lui redonne vie dans le passé, dans le présent, et aussi assez magnifique. Donc voilà, j'ai lu ça avec admiration.
Ouais, c'est vrai que si on aime Aaron Appelfeld ou si on a envie de s'y intéresser, je pense qu'on trouvera quand même mille et une choses dans ce livre. C'est vrai que c'est un petit traité extrêmement éclairant, lumineux, et notamment regardez encore ces pages, la transcription d'une interview à la télé israélienne avec des jeunes gens qui lui posent tout un tas de questions, et c'est formidable parce que ça se passe plutôt pas très bien, parce que ces jeunes gens comprennent pas qu'un juif qui a son âge n'écrive pas sur la Shoah, donc il faut, et après il explique que l'hébreu c'est une langue qu'il a dû apprendre, hein, puisqu'il est c'était pas sa langue maternelle, et les questions sont assez simples et ses réponses sont extrêmement extrêmement riche à chaque fois. Enfin, on a envie de s'arrêter, de repenser au livre qu'on a pu lire d'Aaron Appelfeld. Mais c'est vrai qu'il y a une relation quand même très particulière. J'ai eu la chance deux fois de les avoir tous les deux comme ça dans les studios de radio. Et c'est vrai que ça arrive avec quelques personnes. Je pensais à Massoumé Laïdji avec Abbas Kiarostami. On a l'impression que les cerveaux sont reliés, que ils ont même pas besoin de commencer à parler l'un à l'autre. Enfin, que ça pourrait s'échanger. C'était très très troublant entre Valérie Zenati et Aaron Appelfeld. Et moi, je trouve que ce livre est aussi troublant parce que c'est presque une lettre d'amour. Je voudrais pas qu'on se méprenne sur le mot que j'emploie, mais c'est pas un amour conventionnel, mais c'est quand même un amour. C'est une femme qui est aimante, qui est privée quand même d'un être qui lui est très cher, d'une sorte de double qui a écrit ce livre-là. Donc moi, je trouve que ça rajoute beaucoup de choses. Je parle vraiment d'une relation fusionnelle. C'est plus que de l'amitié. Enfin, et le livre n'épuise absolument pas cette dimension-là. Ça reste quand même un peu mystérieux et très beau. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai lu comme cela. Vous avez dit, c'est pas un livre de deuil, c'en est un aussi. Et on en a lu des très beaux. Évidemment, on parlait de votre ami au serpent, Joyce Carol Oates, on parlait de John Didion. On a régulièrement à traiter de ce type d'ouvrage. Quelqu'un écrit après la mort d'un autre, pour dire ça simplement. Et moi, je pense qu'il fait quand même partie aussi des très beaux, que c'est pas du tout... je veux absolument pas le réduire à un livre de deuil, mais c'est quand même ce chemin-là qu'il fait, qui font que ce livre est beau, troublant, émouvant et extrêmement instructif sur Aaron Appelfeld. Elisabeth Philippe ?
Oui, mais je trouve qu'il y a vraiment une dimension quasi mystique. Et en fait, j'ai beaucoup pensé en lisant ce texte de Zenati à Forêt obscure de Nicole Krauss, dont on a parlé ici.
Qui fait une apparition dans le texte.
Et qui fait une apparition dans le texte.
Qui est là, oui.
Et puisque dans Forêt obscure, la narratrice part elle aussi à un moment critique de son existence en Israël. Et puis il y a cette histoire de fusion quasiment avec Kafka dans le désert. Et là, je retrouvais cette idée de fusion. Et vous parliez de mystère, Arnaud, et je pense qu'il y a une dimension quand même quasi mystique quoi, dans cette relation entre Zenati et Aaron Appelfeld. Et puis, pour revenir encore sur cette partie de Tchernovitz que je trouve vraiment très très belle, moi, je sais pas, il y a une atmosphère, c'est vraiment vraiment romanesque. Et j'ai pensé un peu aux Nuits Blanches de Dostoïevski ou alors au conte aussi de d'Isaac Bashevis-Singer. On est dans cette atmosphère-là et vraiment tout ça fait de ce livre qui pourrait passer pour un petit livre écrit sous le coup de l'émotion. Un livre vraiment fondamental.
Alors c'est vrai que la partie de Tchernovitch, il y a aussi cette incompréhension presque d'elle-même, mais surtout de tous les autres qui se demandent vraiment ce qu'elle peut faire là. Et c'est vrai qu'elle est vraiment un personnage quasiment de fiction à ce moment-là, Valérie Zenati. Raphaël Léris, quelques mots encore?
Elle écrivait, à un moment donné, elle écrit ce qui l'intéressait, donc Appelfeld, c'était la part irréductible de chacun, ce que l'on ne peut arracher à l'homme, sa capacité ou son incapacité à aimer, ses peurs, sa jalousie, son histoire, et j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'elle fait avec lui, et avec elle-même d'ailleurs aussi, dans ce texte-là, que sont ces deux individualités irréductibles qu'elle réussit à attraper, en même temps qu'elle réussit aussi à figer, à dire, ce lien étrange entre eux, qui est aussi, c'est très beau, mais j'en finis par là, ce lien entre deux enfants. Ces deux enfants qui se répondent à travers ces deux personnages d'adultes qui parlent de littérature.
Philippe Chevillier.
Et moi, ce que je trouve aussi assez émouvant et d'un point de vue littéraire très intéressant, c'est que justement cette osmose fait que on a l'impression que son écriture est vraiment au niveau de celle d'Appelfeld. C'est-à-dire que l'osmose, elle se crée aussi dans ce qu'elle écrit elle. Et ça, je trouve ça très beau. On pourrait pasticher ou se mettre en retrait. Non, il y a vraiment un niveau littéraire constant, qu'elle cite Appelfeld ou que ça soit elle qui parle. Et l'autre chose que je me disais, c'est quand même une ode d'abord à la littérature, bien sûr, aux auteurs, mais aussi finalement pour un traducteur et pour des traductrices, c'est quand même une ode aussi à leur travail. Et ça montre qu'ils sont, à quel point ils sont ont importants. Et ça, c'est bien.
Bah ouais, ça c'est bien. Bon, on est tous d'accord là-dessus, au moins dans ce studio. Et évidemment, on le dit très souvent, la part qu'ont les traductrices et traducteurs dans le plaisir et puis dans l'offrande aussi qu'ils nous font avec leurs travaux. Dans le faisceau des vivants, le livre de Valérie Zenati est publié aux éditions de l'Olivier. Mais pour quel livre bat donc le cœur de Raphaël Léris, en plus de ce dont on parle ce soir? Pour Hors de soi, de Sacha Mariana Salzman, paru chez Grasset. De quoi s'agit-il?
Alors, si vous ouvrez ce livre, vous verrez que la première page présente les personnages et pose tout de suite une sorte de contrat. C'est-à-dire que les prénoms sont escortés de leur diminutif ou leur surnom, et en face est inscrit la place que chacun occupe dans la famille. Et on apprend par exemple que Valentina, dite Valia, est, et là je cite, « mère, maman, mame et tout ça », tandis qu'à la ligne d'en dessous, Constantin, dit Kostia, est, je cite toujours, « père » ou quelque chose comme ça. Donc on est prévenu tout de suite, Hors de soi, c'est donc le premier roman de Sacha Mariana Salzman qui est traduit magnifiquement par Claire de Oliveira. Donc ce premier roman lorgne le roman russe, mais sur un mode très très déjanté et sans excès de respect pour son modèle. C'est sur quatre générations qu'est remonté le fil de l'histoire familiale, marquée par l'antisémitisme russo-soviétique. Et alors, celle qui retrace cette histoire, c'est Alissa, dite Ali, hein, puisque donc on est chez les Russes, donc tout le monde a 150 prénoms, qui est partie à Istanbul à la recherche de son frère jumeau, Anton, avec lequel elle a grandi à Moscou avant que la famille ne vienne s'installer en Allemagne quand ils étaient enfants. Donc, si on n'est pas extraordinairement surpris que la quête du frère se transforme en quête d'identité de la narratrice, là, je pense que personne ne tombe de sa chaise. En revanche, on est frappé par la richesse de cette quête, la richesse de la forme qu'elle prend, qui se penche sur l'influence des racines familiales, autant que sur les traces de l'histoire collective dans la vie des individus, mais aussi sur la question du genre, dont Sacha Mariana Salzman fait avec finesse une question centrale, tandis que Ali décide de se faire appeler Anton, oui, parce qu'on manquait un petit peu de surnom, avant d'entamer une transition sexuelle, puisque à Istanbul, les cachets sont en vente libre. Dans la rue. Donc, née à Volgograd en 1985, Sacha Mariana Salzman est émigrée en Allemagne, émigré en Allemagne à 10 ans avec sa famille. Elle est depuis ses 20 ans tenue pour une jeune dramaturge prodige. Elle est en résidence au théâtre Gorki à Berlin. Donc, c'est un premier roman qu'elle signe qui semble emprunter beaucoup de routes connues du lecteur, la saga familiale, le roman générationnel, tout ça, mais qui brouille très astucieusement les pistes pour nous entraîner avec beaucoup, beaucoup d'intelligence et un sens admirable de la phrase. Et là, je voudrais rendre hommage à nouveau à la traductrice, dans des directions inattendues. C'est désarçonnant, c'est passionnant, c'est d'une grande maîtrise et, à mon avis, c'est une belle révélation.
Bon, ben voilà, on va lire, essayer de comprendre d'abord, bien lire la liste de la première page. Hors de soi, de Sacha Mariana Salzman, chez Grasset, dans une traduction de Claire de Oliveira.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Alors, si vous êtes habitué de cette émission, si vous aimez bien regarder l'heure, pour savoir quand est-ce que commencent les séances, vous dites « Oh, c'est bientôt pour commencer la dernière séquence de cette émission ». Mais pourquoi ? Eh bien, je vous explique. Le dernier livre à notre sommaire, ce soir, fait 450 pages, très grand format. Donc, vous entendez ces petits rires dans le studio ? Rire un peu nerveux. Parce que autant vous dire que quand une ou un des critiques de l'émission fait une proposition comme ça à notre sommaire, les autres, moi inclus, ne sautent pas forcément de joie. Hein. Nos journées ne font que 24 heures, je le rappelle. Elisabeth Philippe aura donc dans un instant l'occasion d'expliquer en premier pourquoi il lui a semblé important de parler ce soir des carnets de Goliarda Sapienza publiés au Tripode, donc qui proviennent des pages du journal de l'auteur italienne, avec des extraits choisis par son dernier compagnon, Angelo Pellegrino, une traduction de Nathalie Castagnier. Dire que Goliarda Sapienza a débuté l'écriture de ce journal après avoir passé 10 ans à écrire son chef-d'œuvre, disons-le, L'Art de la Joie, qui ne sera publié qu'après sa mort, 22 ans après l'avoir écrit. Sapienza va consigner sur une durée de 20 ans, on verra qu'elle sera entrecoupée cette durée-là, avec une longue plage sans carnet, mais il y aura quand même une quarantaine de carnets, 8000 pages, toute une série de pensées, de réflexions sur la vie, sur l'art. Bon, je crois qu'on a pas mal de choses à dire. Décembre 1977. Ce petit carnet va sur sa fin. Je ne pensais pas que je serais ennuyé de ne pas avoir d'autres pages blanches. Quand Angelo me l'a acheté, je l'ai accepté comme un cadeau quelconque, gentil, mais sans trop d'avenir. Et en fait, exactement comme on le lisait autrefois, au fur et à mesure que les mois passaient, il m'est devenu précieux, presque indispensable. J'ai toujours détesté les journaux intimes, peut-être parce qu'on m'avait appris qu'un journal intime avait quelque chose de féminin. Et oui, journaux intimes et lettres, pour les lettres aussi. J'ai dû beaucoup combattre avant de trouver du plaisir à en écrire. La faute à l'éducation masculine que j'ai reçue. Et pourtant, ma mère m'enseignait le crochet et à cuisiner, mais en ajoutant que les hommes aussi auraient dû s'y exercer pour mieux se porter. Et Pierra dit qu'à la cuisine, je bouge comme un mousse. Bon, cette brève analyse me convainc qu'il n'y a pas de mal à mettre prise d'affection pour ces pages blanches qui, comme une oreille amicale et discrète, reçoivent toutes mes faiblesses et tous mes épanchements sans les révéler à personne. Quand ce carnet sera fini, je m'en ferai acheter un autre par Angelo. Nous y sommes. Elisabeth Philippe, c'est à vous de nous parler de ces carnets de Goliarda Sapienza. Donc, extraits, quelques extraits.
Oui, c'est pas 8000 pages.
Un film de son journal.
Imaginez, puisque comme vous l'avez, dans l'extrait que vous avez lu, on entend qu'elle était d'abord réticente à l'idée d'écrire un journal. Elle explique dans un passage un peu antérieur à celui que vous avez lu qu'elle avait peur que ça conduise à une forme d'amollissement des sentiments. Et je pense que s'il y a bien un risque qu'on ne court pas en lisant Goliarda Sapienza, c'est l'amollissement des sentiments. Chez elle, c'est... y a toujours une vitalité folle, en fait, dans tout ce qu'elle écrit, qu'elle soit dépressive, qu'elle parle de ses problèmes d'argent, puisque la vie est difficile pour elle, vous l'avez dit. Son livre, L'Art de la Joie, ne trouve pas preneur, ne trouve pas d'éditeur. Elle a quand même passé 10 ans à l'écrire, et c'est une réelle blessure. Et malgré tout, ces carnets, ces notes débordent de vie, d'énergie, de vitalité. Je crois que c'est son compagnon, Angelo Pellegrino, dans un petit carnet qui accompagnait un précédent livre de Goliarda Sapienza, parlait de l'écriture de Sapienza, de sa graphie, comme d'un électrocardiogramme. Et on peut voir... Il y a quelques facsimilés effectivement de ses manuscrits. Et effectivement, il y a quelque chose de très pulsatile dans sa langue. À un moment, elle parle de son écriture, de sa langue comme d'une langue siculo-baroque, puisqu'elle vient de Sicile. Et c'est vraiment ça. C'est une langue de chair et de lave. Il y a toujours des images très surprenantes, comme dans ses romans. Moi, c'est ce qui déjà me faisait énormément aimer ses romans. C'est une voix extrêmement singulière, Goliarda Sapienza. Je crois que quand on l'a lue une fois, on ne cherche qu'à renouveler l'enchantement que procure cette lecture, que ce soit L'Art de la Joie, que ce soit Le Rendez-vous à Positano ou Les Certitudes du Doute. C'est vraiment une voix amie, une voix un peu qui vient nous secouer aussi. Elle dit un moment, en parlant de la recherche du temps perdu qu'elle relit pendant qu'elle fait répéter Nastassia Kinski, puisque Goliarda Sapienza vient du milieu du cinéma. Au sujet de la recherche, elle dit, et du théâtre, elle dit, c'est un grand livre est un ami qui ne trahit pas. Et je pense que Sapienza, c'est ça, c'est une amie, c'est une voix amie qui ne nous trahit jamais. Et donc, au-delà de ça, le fond de ses carnets, elle parle de l'écriture, elle parle de ses lectures, énormément de littérature, elle parle des amis aussi qui disparaissent en même temps que les illusions, puisque Goliarda Sapienza a été élevée par une mère, figure de la mère extrêmement présente dans les carnets, très engagée politiquement, son père aussi, elle-même s'est engagée dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Il y a aussi un frère mort.
Il y a un frère mort.
Tué par les fascistes.
Et dans ces carnets, il y a notamment le récit d'un voyage en transsibérien. Et là, toutes ses illusions s'écroulent. Et elle ne peut plus jamais entendre parler de communisme. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant pour une femme aussi politisée que l'était Goliarda Sapienza, par exemple, sur Aldo Moro, il y a à peine une ligne sur l'enlèvement d'Aldo Moro.
Oui, aujourd'hui, on a enlevé le mort.
c'est ça. Mais c'est surtout, moi, c'est un livre qui déborde de soleil, de chaleur, de sensualité. Voilà, j'espère que ces 400 pages vous auront procuré le même plaisir qu'à moi.
Bon, vous allez le savoir assez vite, je pense. Philippe Chevillier.
Moi, j'étais assez en colère, effectivement, parce que le problème, c'est qu'on se dit des carnets, bon, on va pouvoir un petit peu lire vite, mais en fait, on a du mal, on peut pas, parce que même dans les passages un peu plus prosaïques, ou même quand elle prend le bus, tout d'un coup, il va y avoir une notation, quelque chose de fulgurant qui va vous raccrocher, et on se dit, ah bah ça y est, on replonge dedans, on peut pas passer, on a beaucoup de mal à passer quelques lignes, la pensée qui s'envole un peu comme un papillon, comme ça, qui à chaque fois se pose sur des fleurs. De l'esprit, etc. C'est vraiment très beau. Moi, en plus, je trouve que dans cette Italie dont on parle beaucoup pour des raisons politiques aujourd'hui et qui ne fait pas envie, on retrouve cette nostalgie d'une Italie vivante, du sud, de Rome, de la Sicile, avec des descriptions superbes. On parle de tellement de choses. C'est vrai que la réflexion politique est passionnante parce que, à la fois, c'est vrai que c'est quelqu'un qui très vite rejette donc le stalinisme, le communisme en disant regardez, tous ces intellectuels là qui sont orphelins, ils continuent à être dans... Ils veulent pas voir, mais moi je vois. Et en même temps, elle a cette culture anarcho-syndicaliste, anarcho-socialiste, avec quand même Gramsci qui travaillait dans le journal de sa mère. Elle a une vision assez lucide. Et elle continue à dire, elle croit plus trop au lendemain qui chante, mais il faut continuer à se battre. Ça reste une rebelle tout le temps. Et politiquement, c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit. Et puis, il y a une dimension aussi très intéressante, je trouve, sur tout ce qu'elle peut dire sur l'amour, la sexualité... les codes de l'homosexualité féminine, aussi l'homosexualité masculine. C'est intéressant la façon dont elle dit des choses sans filtre, où elle veut pas être dans des chapelles. Il y a un moment juste moi qui m'a fait je m'attendais pas à ce que ça me provoque ça, le moment où elle fait de la chirurgie esthétique. On se dit mais elle de la chirurgie esthétique, et puis en fait c'est parce qu'elle a un ami qui était amoureux d'elle, enfin le chirurgien qui est amoureux d'elle, qui veut retrouver son image de la jeunesse, c'est très beau. Et la conséquence c'est que Angelo va retrouver son compagnon, elle va plus être dans le même rapport mère-fils qu'elle avait avec lui auparavant,
parce qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle.
Il est beaucoup plus jeune qu'elle. C'est en fait de cette opération qui naissent plein d'idées nouvelles et plein de choses surprenantes. Donc j'ai été conquis par ce livre. Et donc, je suis un peu en colère, mais je suis content quand même.
Contente, Raphaël Léris, d'avoir lu ces carnets de Goliarda Sapienza.
Très contente, d'autant que ce livre m'a permis d'expérimenter quelque chose qui est très rare, c'est-à-dire qu'à deux reprises, me voyant le lire une fois dans le bus et une fois dans un café, des gens sont venus me dire « j'adore Goliarda Sapienza ». Et ça arrive combien de fois dans une... Enfin, là, c'est en moins d'une semaine, deux personnes sont venues me voir pour ça, ce qui donne quand même une idée de l'intensité, de l'enthousiasme qu'elle réussit à provoquer chez le lecteur, de la proximité qu'on a avec elle, alors qu'on ait lu L'Art de la Joie, Retour à Positano, ou ses carnets. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que la première notation, alors ça ne devrait pas me faire rire, parce que je pense que ça nous parle de l'état de dépression dans lequel elle est au moment d'entamer ses carnets, et qui est la raison pour laquelle son compagnon lui donne les carnets. Elle écrit cette chose qui est assez folle. « Depuis que je suis née, rien ne me surprend, rien ne m'enthousiasme, mais cela sans douleur ou envie pour les autres qui vivent. » Et bon, alors il y a 450 pages qui viennent mettre complètement à bas cette notation très neurasthénique, puisque justement, c'est de la surprise permanente, de l'enthousiasme constant, avec une phrase qui accompagne ces émotions, un rapport à la longueur des phrases aussi qui participe de cela, de cet enthousiasme, de cette surprise permanente. Moi, ce à quoi je suis très sensible chez elle, c'est son rapport à l'incertitude et au doute, et dont elle parle très bien, en plus en se moquant souvent d'elle-même d'une manière très très amusante. Elle dit à un moment donné, il y a un petit génie de la contradiction qui vous mène à dire des choses pour ensuite, par une action précise, vous obliger à les nier. Mmh. Et c'est quand même un petit peu de ça dont il est question, politiquement, artistiquement, de ces choses-là. Il y a la, par ailleurs, dans les constantes, il y a l'amitié, dont elle parle magnifiquement, qui l'accompagne en permanence, qui, pour moi, est le vrai sujet de ses carnets.
Oui, l'amitié, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Carnet dont on a dit qu'elle avait eu un rapport un peu... très évolutif avec eux, puisqu'au départ, donc, elle ne les considère pas beaucoup. Ensuite, elle dit qu'il faut absolument les détruire à sa mort. Et puis, assez rapidement, en fait, finalement, elle dit que ce Angelo en fera ce qu'il voudra, comme de tout le reste. Et c'est grâce à lui qu'on a cette édition. Mais il y a beaucoup de choses très ambivalentes chez elle, parce que c'est... Elle décrit le milieu, on va dire, intello-romain avec quand même une certaine acidité. Et en même temps, elle n'arrête pas d'y retourner quand même. Il y a cette dépression dont elle parle quand même à de très nombreuses reprises. Aujourd'hui encore, cet état de dépression. Et elle note les heures, qu'elle est déprimée vers 5 heures plutôt de l'après-midi. Et en même temps, il y a cette vitalité folle. Il y a effectivement toutes ces notations sur la sexualité qui sont très, très, très riches, très évidemment dans la vie. Et puis bon, on n'en a pas du tout parlé encore, ce qui est presque étonnant, mais il y a quand même la prison. Il y a quand même un épisode particulier. Elisabeth Philippe, vous voulez expliquer?
Elle n'a pas d'argent, mais c'est même pas pour cette raison. Elle se retrouve à une soirée, elle va voler des bijoux, en plus chez une amie. Et donc elle finit dans la prison de la Rébibia, et elle parle de cette expérience comme d'un bain de vie. Donc elle fait des descriptions absolument...
C'est en 1980.
Voilà, elle a plus d'une soixantaine d'années à cette époque. Elle décrit ses co-détenus avec énormément d'empathie, d'humanité.
Elle les trouve toutes très belles.
Elle les trouve toutes très belles. Dans Les Certitudes du Doute, où elle racontait cette même expérience de façon romancée, elle parle carrément d'une histoire d'amour avec une des détenues. Donc là, c'est un peu moins sensuel, mais il y a énormément de personnages de femmes qui se succèdent dans cette description. Et vous parliez, Arnaud, de l'ambivalence qui traverse tous les carnets. Son projet autobiographique, sa trilogie autobiographique, s'intitule l'autobiographie des contradictions. Donc tout est là, effectivement, ça fonctionne toujours par oxymore, et je pense que c'est ces allées-venues constantes d'un pôle à un autre qui donnent cette vitalité, cette intensité à l'écriture de Goliarda Sapienza. Que dire de plus? Oui, Philippe...
Mais la prison, ça fait comme un reset sur les mots, quoi, sur l'importance, enfin le sens des mots, leur poids, il y a quelque chose de fondamental qui se passe là.
Oui, puisqu'il traverse aussi toujours l'écriture de Sapienza, c'est la réflexion sur la féminité, sur ce qu'est être une femme, sur... elle a longtemps eu une forme de mépris, comme Beauvoir d'ailleurs, pour les écrits de femmes, et puis elle s'amende sur ce point-là. Et il y a des pages très très belles, puisque Philippe faisait allusion à cet épisode effectivement assez drôle et inattendu de chirurgie esthétique, lorsqu'elle parle du fait de vieillir, puisque quand elle entreprend ses carnets en 76, elle a 52 ans. Et elle écrit, donc elle vient de faire un rêve. Le rêve me dit clairement que j'ai dû être homme pour connaître les affres d'être femme. Mais hélas, cette connaissance s'est révélée atroce, désolée, quoique tragique et héroïque, avec ses contradictions brutales entre les sens et l'esprit. L'autre voix dit « Attends, c'est maintenant, dans la maturité et bientôt dans la vieillesse qui approche, que tu trouveras la raison d'être femme, la signification, la beauté de cette condition. Ne t'arrête pas, c'est là le moment qu'attendait ton action, ne déserte pas juste quand tu commences à comprendre. » Ça, c'est du Goliarda.
Comme vous l'aimez.
Comme on l'aime. Et puis, parce qu'elle elle est en tournée constamment, à un moment, à 64 ans, je crois, elle entame une tournée théâtrale. Ouais. Et là, on traverse l'Italie, c'est aussi magnifique. Pour chaque ville, il y a des phrases. Par exemple, à un moment, elle est à Venise, elle croise un jeune homme avec des cernes profondes de lagunes. Enfin, à chaque fois, elle a des trouvailles.
L'expédition à Copenhague
comme ça,
aussi.
Oui, oui, il suffit d'une phrase pour qu'on soit totalement transplanté dans l'endroit qu'elle décrit.
Philippe Chevillier.
Oui, je pense qu'on augmente, on accroît agréablement notre géographie littéraire. On parlait de Tchernovitch, là on a beaucoup de villes, on a Rome, on a Gaëta qui est vraiment aussi présentée, qui donne vraiment envie. C'est vraiment des.
Vous avez fait le pèlerinage, Elisabeth Philippe?
Pas encore.
Bon, ça viendra. Je pense. Mais on en a envie en tout cas en lisant ça.
Et puis j'ai bien aimé aussi les moments sur le cinéma, quand on était avec Visconti, Maria Schell, et puis cette réflexion qu'elle a à un moment, enfin je caricature un peu, mais disant grosso modo qu'au théâtre on pose à une tragédienne, une grande actrice, la question mais comment vous faites pour pleurer au milieu de. Et elle dit, les femmes ont plein d'occasions d'avoir des chagrins et de souffrir. Et elle dit, évidemment, au cinéma, ça va beaucoup plus vite. Les scènes c'est enregistré très vite. Alors, c'est pour ça, sans doute, qu'il doit y avoir une telle hystérie sur les plateaux, avec des histoires d'amour, de haine, etc., pour que les acteurs puissent, on comprend, se mettre à pleurer au moment du plan. Je trouve qu'à chaque fois, elle a une rapidité d'esprit et puis des trouvailles qui sont extraordinaires.
Raphaël Leris.
Moi, je voudrais juste lire un passage qui me plaît beaucoup et dont je pense qu'il me dit beaucoup de ce que sont ces carnets. On ne comprend rien, 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 mais ce fait de ne rien comprendre me plaît infiniment. C'est un jeu merveilleux et abstrait, à bas la perfection. On creuse et creuse et creuse et on construit, on démolit et on creuse encore dans les fondements de cette construction splendide et utile pour seulement quelques heures. Et je trouve que c'est un projet littéraire extraordinaire dont elle parle là.
À propos de littérature, comme il nous reste un peu de temps, vous avez vu, on a bien prévu, mais ça va bientôt s'arrêter. Elle lit beaucoup et elle nous fait partager ses lectures. Alors selon qu'on s'intéresse plus à tel ou tel auteur, moi j'étais frappé et très intéressé par sa lecture d'Henry James, qui revient quand même très souvent, Elisabeth Philippe.
Oui, Henry James.
Quelques autres. Hein.
Beaucoup d'autres. Joyce, on sent que là aussi, elle est dans un rapport assez ambivalent ou ambigu. Il y a les auteurs qu'elle lit, les auteurs qu'elle côtoie aussi. Moravia, qui fait plusieurs apparitions.
Oui, là aussi. Jusqu'à son enterrement.
Jusqu'à son enterrement. Il y a d'abord la fête d'anniversaire de Moravia, puis ça sert. Il y a l'enterrement de Moravia. Donc tout ça donne aussi, quelque chose de très vivant à la littérature. Enfin, j'insiste beaucoup. Je suis désolée. Énormément le mot vivant, mais je crois que c'est ça qui nous saute vraiment au visage lorsqu'on lit ces carnets. Mais elle est aussi intense dans ses carnets qu'elle est dans ses romans. C'est la même intensité qu'on retrouve et c'est vraiment, je crois que j'avais dit ça quand j'avais parlé de Rendez-vous à Positano. C'est-à-dire que c'est une autrice, on sait qu'on n'aura pas d'autres livres. Et donc chaque nouvelle traduction, c'est un bonheur quoi, de pouvoir renouer avec elle, renouer avec cette voix. Et là, le fait qu'il y ait 450 pages qui nous parviennent, effectivement, c'est une chance qu'il faut absolument saisir.
Sur la littérature ou un autre aspect pour terminer, Raphaël Leris.
Il y a un passage que j'aime beaucoup au début où elle explique pourquoi pour elle les révolutionnaires qu'elle côtoie sont un peu en carton, font exactement ce que la réaction attend d'eux. Et elle explique pourquoi ce sont des gens qui ne sauront jamais lire Stendhal et Stern. Et je trouve que cette notation aussi est à la fois politique et littéraire et lui ressemble tellement et ça fait partie de ces moments assez géniaux.
Non, simplement, il y a aussi cette angoisse de l'écriture, qui est aussi. En fait, elle écrit ses carnets, et puis du coup, elle veut écrire sur sa mère. Et
sa mère.
Sans arrêt, ça revient vers la fin. Voilà, c'est aussi les secrets d'une grande écrivaine. Donc voilà.
Alors, un secret qu'on partage, c'est celui de Goliarda Sapienza, un secret de moins en moins secret, heureusement. Et si on n'a jamais lu, Elisabeth Philippe, il nous reste quelques secondes, on commence
si
par
on a,
quel
on
livre.
Si on a peur de ce pavé, il y a les certitudes du doute qui paraissent en poche. En ce moment, donc ça peut être une bonne voie d'accès. Et puis, l'art de la joie,
Ouais.
évidemment son chef-d'œuvre.
À la rencontre de Modesta. Carnet de Goliarda Sapienza, c'est publié par Le Tripode, c'est dans une traduction de Nathalie Castagnier. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint comme chaque soir, qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Joséphine.
Alors la question était: quel réalisateur franco-cambodgien explore à travers ses œuvres la mémoire du génocide Khmer Rouge? Et la réponse était Ritipan.
Ce soir, nous avons gagné des exemplaires de l'anthologie La Beauté, établie par Bruno Doucet et Thierry Renard. C'est à l'occasion du Printemps des Poètes qui se déroule du 9 au 25 mars. Quelle est la question, Joséphine?
Comment appelle-t-on une petite pièce de poésie exprimant une pensée galante?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions ou vous abonner au podcast. On se retrouve demain à 19h en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour une dispute consacrée au cinéma. En compagnie de Lucille Como, Charlotte Garçon, Thierry Chaise et à notre affiche La Flore de Mariano Linhas, film en 6 épisodes et 4 parties. Les étendues imaginaires de Yao Xiu Hua, Bête blonde de Maxime Matré et Alexia Walter, et puis un coup de cœur de Thierry Chaise pour Cybèle de Guillaume Giovannetti et Gaxla Sensirsi.